Voilà, alors nous allons continuer ce que nous avons commencé. Pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je réexplique simplement que donc depuis quelques mois maintenant, depuis le mois d'octobre, nous sommes occupés à un enseignement qui porte sur le monde spirituel et sur le combat spirituel. Alors nous avons parlé du monde spirituel pendant quelques temps et nous avions parlé du monde spirituel bon, c'est-à-dire le monde spirituel de Dieu, et le monde spirituel mauvais, c'est-à-dire le monde du diable. Et donc, nous avions expliqué justement tout ce qui concerne les anges, les esprits, etc., etc. Et ensuite, nous avions basculé sur la partie combat spirituel, où nous avions présenté, si vous vous souvenez, les différentes manières par lesquelles le diable peut affecter la vie d'une personne, voire mettre une personne sous emprise, et vous vous souvenez qu'on a vu différents types de catégories, et nous avons aussi abordé quelques éléments sur la réaction que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir face à ces œuvres démoniaques. Et pour rappel, nous parlons ici de l'œuvre de Satan, mais ce n'est pas forcément dans des choses extraordinaires, ce n'est pas toujours dans des grandes manifestations extraordinaires, mais nous avons vu que son œuvre est une œuvre insidieuse, une œuvre cachée, et qu'il nous faut être alerte pour voir comment il est en train d'essayer de nous perturber, combien il est en train d'essayer de nous tourmenter, combien il est en train d'essayer de nous dévoyer. Eh bien, nous devons être attentifs à tout ça pour pouvoir marcher selon Dieu et pouvoir résister à tout ce que le diable peut mettre en œuvre par rapport à nous. Ça, c'est un condensé, mais vous savez donc qu'il y a les autres parties qui sont sur le site internet de l'Église. Donc, si vous voulez éventuellement réécouter une partie ou l'autre, n'hésitez pas. Alors, là, je voudrais reprendre par quelque chose que nous n'avions pas abordé la dernière fois, et c'est quelque chose de très important, parce que jusqu'ici, nous avons parlé des différentes manières avec lesquelles le diable peut entrer dans la vie de quelqu'un, peut prendre emprise sur quelqu'un. Nous avons parlé de démonisation, d'influence démoniaque, d'obstacles. Hein. On avait vu aussi que parfois l'ennemi fonctionne avec des obstacles qu'il met sur la voie des chrétiens. Lorsque nous sommes en train d'agir, en train de servir, en train de vouloir vivre notre vie, il y a des obstacles sur notre route, il nous divise. Il met tout un ensemble de cas. Et donc, on avait vu toutes ces œuvres intentionnelles de l'ennemi et un petit peu grosses comme ça. Donc, des trucs un peu qui sont des gros liens, des gros obstacles. Et là, maintenant, je voudrais parler quelques instants de l'arme la plus utilisée quand même du diable, c'est la tentation. Parce que je voudrais pas qu'on croit tous que la seule chose que le diable fait, c'est habiter quelqu'un au travers d'esprits mauvais ou alors perturber la vie de l'Église. Le diable agit par une méthode qui est une méthode commune, qui est sa méthode commune, et c'est sa méthode, c'est la particularité, c'est que c'est la méthode dans laquelle il a le plus d'expérience. Hein, c'est la tentation. Et donc vous savez que ça, c'est son arme, et c'est l'arme qu'il utilise depuis le Jardin d'Éden. Tout se joue là, au Jardin d'Éden, où il a utilisé cette arme de la tentation pour dévoyer Adam et Ève. Et donc, je parle en quelque sorte ici d'action, entre guillemets, quotidienne du diable. Hein, on pourrait dire que c'est comme, je ne sais pas, une armée, par exemple. Eh bien, une armée, elle a certainement des méthodes lourdes, des grosses méthodes d'intervention pour des grosses guerres, et puis il y a des méthodes un peu plus quotidiennes, un peu plus banales. Et donc la tentation fait partie des méthodes quotidiennes que le diable utilise pour nous faire chuter. Le diable cherche à nous faire tomber dans le péché pour briser notre relation avec Dieu, parce que c'est le premier effet du péché, c'est que le péché met obstacle entre nous et Dieu. Et lorsque le péché est là dans nos vies, lorsqu'il est installé dans nos vies, eh bien, il y a un obstacle à ce que notre communion avec Dieu soit parfaite. Le péché, c'est un obstacle à notre communion avec Dieu. Et donc, le diable sait que dès lors qu'il nous fait tomber dans le péché, il nous met en difficulté parce que nous nous trouvons en difficulté sur le plan de notre relation avec Dieu. Il cherche à briser notre relation avec Dieu, il cherche aussi à affaiblir notre témoignage et notre ministère. Donc le diable aussi a une intention spécifique, c'est de briser notre témoignage. Et ça, c'est important aussi de s'en rendre compte, et c'est quelque chose qui est assez témoigné dans la Bible, c'est que le diable a tout intérêt à ce que nous, enfants de Dieu, lorsque nous nous levons, ben, nous soyons discrédités. Vous voyez ce que c'est d'être discrédité? C'est quand quelqu'un, au travers de sa vie, au travers de son comportement, ne peut pas être entendu ou ne peut pas être cru. Et donc, ça, c'est une œuvre que le diable fait dans des vies personnelles, c'est de nous mettre dans le péché pour que nous soyons discrédités et que nous ne puissions plus témoigner de Christ, nous ne puissions plus être crédibles. Et c'est aussi quelque chose que le diable fait avec l'Église de Jésus, et pas seulement l'Église protestante, mais avec l'Église en général, c'est que le diable met en œuvre des stratégies pour que l'Église soit plus crédible. J'avais déjà parlé de ça. C'est un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour tout un ensemble de raisons. Aujourd'hui, dire qu'on est chrétien, on passe pour des idiots, ou en tout cas, on passe pour des gens qui disent des belles choses, mais qui derrière, c'est pas forcément reluisant. Hein, donc, l'Église qui était censée porter la parole du salut, aujourd'hui, est moquée parce que il y a dans l'Église pire que ce qu'il y a dans le monde. Et donc, vous voyez que c'est une intention aussi de l'ennemi de mettre, d'empêcher notre témoignage, d'empêcher que nous puissions être crédibles pour nous mettre en difficulté. C'est la même chose pour notre ministère. Ça semble évident que voilà, vous savez que ben, le diable n'a pas beaucoup de mal à détruire le ministère de quelqu'un, d'un pasteur, d'un ancien, d'un évangéliste, d'un missionnaire, d'un conducteur de louanges, d'un moniteur d'école du dimanche. Il n'a pas de mal à le faire. Il suffit de faire tomber quelqu'un dans un péché honteux et tout de suite, ben, ça jette le discrédit sur la personne et sur son ministère. Vous voyez? Et donc là, il faut se rendre compte et ça doit faire l'objet de nos prières. Le diable cherche aussi à détruire les saintes relations dans lesquelles nous sommes. Hein, donc il va au travers de la tentation aussi tenter de mettre en péril nos relations autour de nous, nos relations d'église, nos relations de famille, nos relations, quelles que soient nos relations, il cherche à les mettre en péril. Et je parle ici des saintes relations. Il y a des relations que nous avons qui sont spécifiquement sanctifiées par Dieu. Et le diable cherche à les mettre en péril, à les mettre en difficulté. Le diable cherche à nous mettre en opposition ou en désobéissance à Dieu au travers de la tentation. Il nous tente, il nous pousse vers le mal, il met en œuvre des manœuvres pour que nous puissions pécher, pour que nous puissions nous éloigner de Dieu. Alors, dans la Bible, on voit, et là, ce ne sont que des exemples, donc ça ne se clôture pas à ça, mais on voit quelques types de manœuvres de tentation. Alors, j'insiste, je sais qu'on l'a dit il y a quelques fois, mais vous savez que donc, dans la tentation, il y a deux intermédiaires de tentation. Premier intermédiaire de tentation, c'est notre chair. C'est en nous. D'accord? Donc c'est pas à chaque fois qu'on a envie de pécher, c'est pas à chaque fois le diable qui est là et qui veut nous faire pécher. Nous avons en nous cette nature pécheresse qui nous pousse au mal. D'accord? Maintenant, il y a des actions spécifiques du diable pour nous faire pécher. Et donc là, c'est différent, c'est vraiment qu'il met en œuvre quelque chose au travers de ses mauvais esprits pour nous détourner. Et donc, par exemple, on peut donner l'exemple du diable qui susurre une idée à nos oreilles. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il passe à côté de quelqu'un et il lui fait passer une idée dans la tête. Donc, c'est juste un murmure comme ça qui passe dans la tête de la personne et puis, ben voilà, la personne écoute et si elle accepte cette idée-là, eh bien, elle va pécher dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on voit dans le texte biblique concernant Ananias et Saphira, si vous vous souvenez, où, après, Pierre leur dit, mais comment le diable a-t-il mis dans vos cœurs de faire cela? Et donc, ça veut dire qu'ils ont péché, mais ce n'était pas un simple péché qui est créé par la chair. c'est un péché aussi où le diable avait son œuvre. Alors évidemment que les deux se rejoignent, évidemment que le diable connaît nos faiblesses de chair et qu'il peut jouer là-dessus. Mais bon, voilà. Et donc là, c'était, il leur a soufflé la pensée de garder une partie du prix du champ et de ne pas le donner. Et donc le diable peut nous susurrer des pensées d'orgueil, par exemple. Hein, vous savez que c'est son arme, enfin c'est son péché spécifique, l'orgueil. C'est ce qui l'a fait tomber. Et comme il sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il vient juste attendre quelqu'un au tournant. Hein, ça, c'est très facile parce que, en fait, il y a parfois des obstacles qu'on connaît bien, d'accord. Donc, on sait bien que ça, c'est une tentation. Ça, c'est un domaine dans lequel je sais bien que le diable peut facilement me tenter. Et alors qu'on est focalisé par ça, ben souvent, il va juste nous rattraper avec de l'orgueil. Hein, mais tu sais que t'es le meilleur, hein, tu vois bien, et les autres, ils valent rien, c'est toi qui fais le mieux, hein, tu devrais quand même t'en rendre compte, et voilà. Et tout doucement, l'orgueil s'installe dans notre tête, et nous sommes pris par des pensées d'orgueil, et ça nous met en obstacle vis-à-vis de Dieu. Autre exemple, il peut mettre dans nos têtes des pensées de rébellion. Hein, des pensées de « mais de toute façon, qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu crois je sais pas moi, t'es tes parents, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils en savent rien. Et tu envoie-les à la gare, envoie-les bouler, de toute façon, voilà. Donc, vous voyez, hein, donc des pensées comme ça qui viennent juste susurrer à nos oreilles et qui peuvent nous faire tomber dans certains péchés. Alors, par exemple, d'autres manœuvres de tentation, c'est que le diable, parfois, va simplement valoriser à nos yeux des déviances mondaines. C'est-à-dire qu'il va juste nous faire trouver beau des choses qui sont laides, pour que nous puissions y adhérer quelque part, pour que nous puissions, d'une certaine façon, nous laisser prendre. Bah oui, c'est sympa, c'est marrant, c'est rigolo. Et donc, voilà, nous sommes pris et... voilà, donc par exemple les modes, il y a des modes hein, dans le monde actuel. Eh bien parfois il y a des modes comme ça dans lesquels des modes qui sont là autour de nous et qui peuvent nous affecter. Le diable nous met en difficulté parfois simplement en faisant entrer des fausses doctrines dans l'Église. Ça j'en en ai déjà parlé. En introduisant des loups dans l'Église, on en a déjà parlé aussi. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que les manœuvres de tentation, c'est plein de choses. Alors le diable connaît nos faiblesses et nous n'avons pas tous les mêmes. Hein, donc il y a quelqu'un qui a vraiment du mal avec l'orgueil, hein, et des gens comme ça qui sont naturellement, qui ont une gloriole facile, qui prennent vite le gros coup, bah, il va jouer là-dessus. Il y a des gens, ils ont du mal avec la sexualité, bah, il va jouer là-dessus. Il y a des gens, ils ont du mal avec la parole. Et donc il va nous pousser à pécher en étant médisant, en étant calomnieux parfois, et donc il nous pousse et c'est pour ça qu'en fait vous voyez bien qu'il y a même il y a des péchés même qui sont très qui sont très associés aussi au sexe, hein, donc enfin au sexe homme-femme, hein, je veux dire. Donc on sait que voilà, il y a certains péchés qui parlent plus aux femmes qu'aux hommes. Le diable joue avec nos faiblesses. Il y a des faiblesses qui sont constitutives de notre nature humaine, et puis il y a les faiblesses que nous accumulons au cours de notre vie parce que nous avons été faibles dans un domaine ou un autre, et il joue là-dessus. Alors, un autre exemple de manœuvre de tentation, c'est que le diable parfois suscite une sagesse diabolique. Alors, bon, on va pas lire ce texte, mais vous voyez aussi que ici il y a un passage qui nous parle de la sagesse. Donc voilà, verset 15, Jacques 3 à partir du verset 15. Une, dont on va lire tout. Mais si vous, votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas de lieu de vous vanter, ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie, l'esprit de rivalité, là où habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est pure, elle aime la paix, voilà. Bon. Donc vous voyez que parfois le diable aussi peut simplement susciter en nous une sagesse diabolique. Donc c'est une sagesse, comment dire ça, c'est une sagesse insidieuse qui peut nous faire penser que certaines choses que nous faisons sont bien, sont justes, ou parfois que certains de nos combats sont justes, mais en fait ce sont des faux combats, ou ce sont des combats dans lesquels Dieu nous, enfin dans lesquels l'ennemi, pardon, nous désoriente. Hein. Donc, j'ai des exemples, mais ce sont toujours des exemples un peu caricaturaux. Hein, mais voilà, il y a cette sagesse, cette mauvaise sagesse, ces mauvais raisonnements qui peut mettre dans notre tête. Hein, nous faire gober que voilà, tel comportement est juste. Et donc, vous avez des gens comme ça, des chrétiens, parfois, ils ont des comportements et ils vont vous assurer, mordicus, que c'est juste de faire ça, alors que ça ne l'est pas du tout. Quoi. Donc, insidieusement, il y a une sagesse qui vient, diabolique, qui vient s'asseoir dans les cœurs. Alors, par rapport à la tentation, le texte biblique nous invite à nous tenir prêts. Le texte biblique nous dit que nous devons veiller et prier afin que vous n'entriez pas en tentation. Alors ça, c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que quand même, il dit « veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation ». Et certaines versions du Notre Père, vous le savez aussi, ont, dans la traduction, « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et donc, il y a parfois dans le texte biblique cette idée de faire en sorte de ne pas se trouver en position de tentation. D'accord ? Et c'est-à-dire de mettre en place ce qu'il faut. Alors, être en tentation, ce n'est pas un péché. La tentation, c'est l'étape avant le péché. Nous ne péchons que lorsque nous adhérons à la tentation. Hein ? Mais donc, être tenté, ce n'est pas un péché. Mais parfois... le texte en tout cas nous montre que nous devons parfois prier pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas être placé en situation de tentation où nous pourrions déraper. Et donc pour ça il nous faut veiller et il nous faut prier. Et il nous faut aussi prier en avance de la tentation parfois. Donc par exemple vous levez au matin. Et alors, vous devez aller travailler, et vous savez qu'en allant travailler, aujourd'hui, c'est le jour où vous allez rencontrer cette casse-pied de service, là, Marguerite. Et Marguerite, elle est vraiment pénible. À chaque fois, Marguerite, elle a des paroles désagréables, et vous avez juste envie de lui mettre une ou deux gifles pour la faire taire. Ou alors quand Marguerite, quand quelqu'un, parce que souvent Marguerite, elle est tellement énervante qu'elle énerve tout le monde. Et donc le problème avec Marguerite, c'est que les autres viennent vous parler d'elle. Et là, vous avez juste envie de vous laisser aller, de dire, ben oui, elle est vraiment casse-pieds, cette Marguerite. Franchement, on ferait bien de la virer. Je ne sais pas ce qu'elle fait là encore. Et donc vous savez à l'avance que vous allez vous trouver en tentation. Hein? Donc vous savez à l'avance que vous allez avoir envie de mal répondre à Marguerite, vous avez envie de dire du mal d'elle, d'être désagréable, tout ça. Et donc vous pouvez, dès le matin, au moment de la prière du matin, dire « Seigneur, fortifie-moi pour que je ne pêche pas face à Marguerite. Aide-moi à être plein de patience, plein de douceur. Aide-moi peut-être à aimer Marguerite. » Parce qu'il est dit « aimez vos ennemis ». Bon, c'est pas encore mon ennemi, Marguerite, mais quand même, je peux l'aimer, je peux lui faire un petit câlin. « Salut Margue, comment tu vas? T'as passé une bonne nuit ?» Donc voilà, il y a moyen, n'est-ce pas? Et donc, il y a ça. Ça peut être avec Marguerite, ça peut être avec des situations où... voilà, 100 000 situations possibles dans notre vie où nous savons que « aïe !» La tentation va venir et donc nous pouvons prier par rapport à ça. C'est la prière préventive. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas hésiter à faire parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et ce verset, il faut vraiment qu'on y donne toute sa densité. Ce verset signifie que notre esprit est toujours disposé à faire ce que Dieu veut, mais que notre chair nous rattrape au tournant. Et donc, si vous êtes croyant, au moment où vous vous levez le matin et vous vous asseyez sur le bord de votre lit, vous n'avez pas envie de faire du mal à Marguerite. Parce que vous savez que vous êtes appelé à aimer votre prochain, etc., etc. Mais le problème, c'est que votre chair, au moment où vous allez vous trouver devant elle, va vous rattraper et elle va vous dire « Allez, vas-y, voilà, ou parfois vous pourriez être tenté, parce que Marguerite, elle a certainement une faiblesse ou l'autre, hein, vous pourriez très bien avoir la tentation de lui dire une parole méchante. Ah ben oui, hein, Marguerite, hein, c'est comme toi, hein, avec tes... Hein, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de méchant hein, avec tes blouses, là, qui ne ressemblent à rien. Hein, tu sais, la blouse avec laquelle t'es venu la semaine passée, ça... ben, voilà. Mais donc, on pourrait avoir cette tentation-là. OK? Mais donc, il faut que nous puissions demander la grâce de Dieu. Alors, la Bible nous invite aussi à revêtir les armes, de Dieu pour pouvoir résister. Alors, Éphésiens 6, 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ça, c'est un verset important. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il y a des ruses du diable. Hein, donc, je rappelle, on dit qu'il est rusé, il est malin. Il a le truc. Il sait comment s'y prendre avec nous. Il sait comment nous attraper comme il le veut. Et donc, nous devons revêtir les armes. Et le verset plus loin dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc prenez les armes pour pouvoir résister quand ? Dans le mauvais jour. Intéressant ça, de se dire que la Bible nous dit qu'il y a des mauvais jours. Et les mauvais jours ici, dans le contexte, ce sont les jours où la tentation vient. Les jours où nous pouvons être assaillis par une tentation. Alors vous autres, vous ne connaissez pas ça, parce que vous êtes déjà saints, sanctifiés, mais nous autres, les pécheurs, les pauvres pécheurs, nous connaissons bien ça. Il y a des jours où on est là, on danse là-haut, là, et puis le lendemain matin, boum, on est tenté, on dit, mais qu'est-ce qui se passe hein? Vous ne connaissez pas le blues du lundi matin? C'est le blues spirituel hein, du lundi matin. C'est pas, j'ai pas envie de me lever pour aller travailler. C'est le truc de se dire, oh, c'était bon dimanche à l'église, c'était bon, on était bien, on a loué Dieu et tout ça. Et dimanche, j'étais plein de feu, et puis lundi... Oh, est-ce qu'elle est ma Bible? Oh, j'ai pas envie de la lire. Oh, prier. Oh non, j'ai pas envie. Et donc, il y a des mauvais jours. Alors ça, c'est les jours de blues. Mais puis, il y a aussi les jours de tentation. Les jours où vraiment nous sommes assaillis, comme ça, par les ruses du diable. Le texte nous dit, revêtez-vous. Donnez-vous les armes. Et là, c'est intéressant parce que le texte ne dit pas espérer avoir les armes. Il dit, revêtez-vous. Prenez les armes. Revêtez-vous pour pouvoir résister. Donc c'est le texte, je vais le lire quand même. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, vous avez déjà entendu 100 000 milliards de prédications sur ce texte. Et donc, on ne va pas s'y arrêter longtemps. Vous connaissez tout ça, vous avez déjà entendu tout ça en détail. Et donc, on va aller rapidement sur ce passage-là. Alors, le texte nous montre que les finalités du combat, il nous dit, voilà, prenez vos armes, parce qu'il y a des ruses de l'ennemi, il y a des puissances dans les lieux célestes qui sont là, qui sont occupées à essayer de vous mettre en difficulté. Le texte nous dit que les finalités du combat, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. ne pas nous laisser emporter, mais tenir ferme, tenir bon. Le texte nous dit que c'est pour pouvoir résister dans le mauvais jour, pour être en mesure de résister au jour de la difficulté. Le texte nous dit que c'est pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Le texte nous dit que c'est pour pouvoir combattre et repousser les attaques du diable. Frères et sœurs, on l'a vu au début, nous sommes dans un combat. Et le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, et d'autant plus le jour où vous avez accepté de passer par les eaux du baptême en témoignant publiquement de votre choix, vous êtes entré dans l'arène, dans le lieu du combat. Et nous sommes des cibles. Et donc nous devons revêtir les armes pour pouvoir tenir ferme. Mais le texte commence, fortifiez-vous dans le Seigneur. En d'autres termes, Dieu vous donnera cette force nécessaire si vous lui demandez, si vous la cherchez auprès de lui. Mais malgré tout, nous avons une part, c'est de nous revêtir des armes. Alors, bon, on voyait bien l'image, hein, mais à mon avis, c'est l'ordinateur d'Olivier qui brouille tout, enfin, je ne sais pas. Ça doit être un truc du genre. Non, c'est pas vrai, c'est parce que c'est pas bien pixelisé. Alors, en fait, vous savez tout ça, donc je ne vais pas le dire, vous connaissez l'histoire, Benoît vous en a certainement déjà parlé, et voilà. Donc, tu en as déjà parlé de ça, Benoît ? Oui, mais si jamais c'est... Ah ! Merci Olivier, c'était une bonne idée, oui. Donc l'histoire, pour faire court, nous pensons que l'apôtre Paul était en captivité et qu'il avait en face de lui un centurier, un soldat romain, et que en voyant ce soldat romain, et qu'il, alors qu'il était en train d'écrire sa lettre, il associe chaque équipement, chaque élément de l'équipement du soldat qu'il voit dans la prison où il est, à un élément, à une arme spirituelle. Et donc vous voyez que le soldat romain qui est là, il a... Oh, mais il est extraordinaire, ce monsieur. Le casque du salut, donc il y a là un casque pour protéger la tête. Il y a la cuirasse de justice, qui est donc cette cuirasse qu'il porte sur le dessus ici pour se protéger. Il y a dans son équipement la ceinture, que le texte appelle la vérité pour ceinture, et c'est donc cette ceinture ici. Alors vous savez que à cette époque-là, la ceinture, c'était quelque chose qui avait un haut sens, une haute symbolique, tant pour un soldat que pour un homme normal, c'est qu'effectivement, comme ils avaient des tenues amples, des espèces de tuniques, voilà, eh bien, il fallait une ceinture qui permettait de par exemple, de marcher, de courir, qui permettait de travailler, d'œuvrer pour ne pas se prendre les bras et ne pas être embêté par la tunique. Et donc ensuite, le texte parle du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit qu'il tient là en hauteur. Et donc, le texte associe à chacun de ces éléments une arme que le chrétien doit revêtir. Merci beaucoup pour le zoom. Alors, le texte nous parle premièrement de la ceinture de la vérité. Alors, vous savez que nous ne savons pas forcément exactement de quoi l'apôtre Paul parlait, mais au travers de connexions entre les textes bibliques, on peut, supposer assez certainement à quoi il faisait référence. Premièrement, il nous parle de cette ceinture de la vérité. Alors, de l'avis de plusieurs, cette ceinture de la vérité fait référence justement au fait que nous sommes appelés à vivre en marchant dans la vérité, où nous sommes appelés à vivre en résistant contre le mensonge, en résistant contre la malhonnêteté, en résistant contre l'hypocrisie. C'est une invitation à vivre dans la droiture et dans la vérité. Et on peut accepter facilement cette idée parce que, finalement, vivre dans la vérité, vivre dans la droiture devant Dieu, avoir une conscience nette devant Dieu, avoir une conscience pure devant Dieu, c'est quand même le béaba pour être à l'aise dans sa vie spirituelle. Donc on disait qu'ils mettaient une ceinture pour être bien dans leurs vêtements, pour pouvoir agir. Comment est-ce que nous pouvons vivre notre vie avec le Seigneur? Comment est-ce que nous pouvons résister aux armes du diable si nous sommes banco dans notre marche avec Dieu, si nous marchons dans l'hypocrisie, la malhonnêteté? Le texte nous invite à aimer la vérité, à vivre dans la vérité, à être vrai avec nous-mêmes, à être vrai avec les autres, à être vrai avec Dieu. Et donc, ce serait une invitation à une marche dans la vérité. Mais en fait, marcher dans la vérité au sens biblique, ça veut dire pas mal de choses quand même. Marcher dans la vérité, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire marcher dans ce que nous savons être ce que Dieu veut. Ça veut dire nous laisser conduire par le Saint-Esprit, qui lui est l'Esprit de vérité et qui nous conduit, qui nous dirige dans la vérité. C'est quand même quelque chose de très extensif, la vérité. Il y a d'une part la vérité dans notre marche, mais il y a aussi la vérité dans notre vie spirituelle, dans notre dépendance avec Dieu. Être conduit par l'Esprit de vérité. Le texte nous invite aussi à prendre la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Alors, cette cuirasse de la justice, de la vie de plusieurs, renvoie à cette... Non, il y a une erreur là, c'est pas ça. À la justice que nous obtenons par la foi et non pas par la sanctification. Donc c'est la cuirasse de la justice que Christ a acquise pour nous. Christ est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Il a fait de nous des justes. Et donc la cuirasse de la justice renverrait justement à cette justice que nous avons obtenue par la foi. Et donc quand il dit « mettez la cuirasse de la justice », ça ferait référence au fait de se dire « souvenez-vous de cette justification au temps où Satan vous accusera, où il viendra vous accabler, parce qu'il le fait, il nous accable, n'est-ce pas ? Il nous accable lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes tentés, il nous accuse aussi, il nous fait douter de notre salut, il nous fait douter que nous sommes enfants de Dieu, il nous fait douter que nous sommes bien assis dans les lieux célestes. Et quelque part, en disant ça, l'apôtre nous dit, mettez la cuirasse de la justice, souvenez-vous de votre justice. Souvenez-vous de la justice que Jésus vous a donnée. Et c'est une invitation à nous fonder sur la justice de Christ, à être assuré dans la justice de Christ. Je suis justifié, j'appartiens à Dieu, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Ayant donc été justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le texte aussi, un autre texte intéressant, 1 Thessaloniciens 5, verset 8, nous utilise une autre expression, où il est dit « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la justice et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et vous voyez que là, c'est « ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. » Alors, on peut penser que c'est la même idée, en fait. Pourquoi ? Parce que la justice dont il parle, la cuirasse de la justice, cette justification vient de la foi. C'est notre foi qui nous assure cette justification. Donc, ça c'est un élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il parle de la cuirasse de la charité, la cuirasse de l'amour. C'est fou, hein, ça. La Bible nous dit que notre amour aussi, notre charité, c'est une cuirasse. C'est une cuirasse. Et cela est tout à fait assumé par Galates 5, 6 qui dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par la charité. » Donc on voit que notre foi elle est agissante par la charité. Raison pour laquelle on peut appeler cette cuirasse la cuirasse de la foi et de la charité. Notre foi, elle est agissante par la charité, par l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers les autres. Nous sommes invités à porter cette cuirasse de justice, cette cuirasse de cette assurance de notre salut, mais en même temps cette cuirasse de notre foi et de l'amour que nous déployons, cet amour pour Dieu qui nous rend résistants, cet amour pour les autres, bien nous sommes invités à porter tout cela. Voilà déjà deux premiers éléments de cet équipement que nous sommes invités à porter pour pouvoir résister aux traits enflammés de l'ennemi. Amen. Voilà, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Nous allons souffler 2 secondes et passer à autre chose. Voilà, alors, il est prévu qu'aujourd'hui, nous puissions parler de l'évangélisation au sein de notre Église. Alors, c'est une sorte d'annonce, mais qu'on va essayer de faire de façon un peu extensive, mais normalement, nous finirons dans les temps, ne vous inquiétez pas. Donc, vous savez que nous allons tout doucement entrer dans le projet Espoir 2023, qui donc va se tenir en octobre 2023, qui va se tenir du 2 au 15 octobre. Alors, c'est un projet, comme vous le savez, qui implique tout un ensemble d'églises, pas seulement la nôtre, mais des églises, je pense qu'il y en a une quarantaine d'églises, en tout cas, il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est qu'en fait, toutes ces églises, pendant les 2 premières semaines d'octobre, vont faire une action coordonnée d'évangélisation. Donc tous en même temps, nous allons nous coordonner pour évangéliser. Et à l'occasion de ce programme extraordinaire, nous avons eu l'occasion de nous réunir entre responsables, avec les anciens, avec le membre de l'équipe d'évangélisation. Et nous nous sommes rendus compte qu'il était important peut-être que l'on profite de cette occasion d'Espoir 2023 pour essayer de redynamiser l'évangélisation au sein de notre Église. Okay ? Et donc, je voudrais simplement ici prendre quelques minutes pour expliquer dans quel sens nous voulons redynamiser. Et je vous le dis d'emblée, la visée de cette intervention, c'est un appel à engagement. Okay ? Donc, ce n'est pas une contemplation d'information. C'est clairement pour que éventuellement des personnes se sentent motivées à s'engager dans ce travail. Alors, l'objectif suprême, c'est que nous puissions accomplir la grande mission de Jésus en étant une église missionnaire. Pour ceux qui étaient à la dernière réunion d'assemblée, souvenez-vous de ce schéma dans lequel les flèches pointent vers l'extérieur. Nous voudrions être une église non pas renfermée sur l'intérieur, non pas concentrée sur nos petits bibelots, nos petites histoires, mais une église missionnaire, une église qui va à la rencontre des perdus, qui va à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui va à la rencontre de ceux qui sont nulle part, nous voulons que notre Église soit tournée vers l'extérieur et qu'elle s'organise pour pouvoir aller vers l'extérieur. Et donc ça, c'est l'objectif. Et c'est pas un objectif qu'on a envie, nous, c'est pas ça. C'est obéir à Jésus. C'est accomplir la mission de Jésus en étant une Église qui va vers l'extérieur et qui annonce cette bonne nouvelle. Et nous croyons que ça, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est intentionnel. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on agisse par la puissance du Saint-Esprit, mais pour faire cette œuvre d'aller vers l'extérieur. Ah oui, ça c'est le schéma, voilà. Jean 20, verset 21 dit, « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus nous envoie. Et c'est quelque chose d'essentiel, c'est pas un surplus, c'est essentiel, c'est que Jésus nous envoie vers le monde. Comme le Père a envoyé Jésus sur terre, maintenant Jésus nous envoie auprès de nos contemporains pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Et donc Jésus nous envoie à titre individuel, bien sûr, mais Jésus nous envoie aussi en tant qu'Église. En tant qu'Église missionnaire, nous voulons développer une culture d'évangélisation. C'est-à-dire que nous puissions vivre notre vie d'Église en ayant toujours à cœur les perdus. Alors un exemple simple d'une Église qui a une culture d'évangélisation, c'est l'accueil. Dans une Église qui veut parler aux non-croyants, on organise un accueil. On s'ouvre à accepter des personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent d'ailleurs, qui débarquent. On s'ouvre. Mais bien plus que ça, dans une église avec une culture d'évangélisation, on agit concrètement pour faire connaître, on invite, on est dans cette mentalité-là. Nous voulons, en tant qu'église, encourager les chrétiens au témoignage personnel ou au service, et nous voulons nous tourner vers le monde qui nous entoure pour rayonner de Christ. Nous voulons nous tourner vers le monde qui nous entoure, nous voulons rayonner dans notre quartier. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que les gens de ce quartier pensent de nous? En fait, ils n'en savent absolument rien. Ils savent qu'il y a une église, ils savent qu'il y a des gens qui y viennent, qui s'asseyent, mais qu'est-ce qu'ils savent finalement de ce message que nous avons à annoncer? Qu'est-ce qu'ils savent de qui nous sommes, de ce que nous sommes? Qu'est-ce qu'ils savent de ce que nous voulons Alors voilà, ils ont reçu des traités dans leur boîte aux lettres, etc., etc. On envoie des invitations de Noël. Mais quelque part, l'Église est invitée à être visible. À être visible. Donc à être vue. Non pas pour se montrer, mais pour témoigner, pour rayonner de Jésus-Christ. Et nous voulons être une église missionnaire en établissant une équipe d'évangélisation forte et dynamique. Nous avons déjà cette équipe, mais que nous voulons maintenant renforcer. Alors dans la salle ici, il y a Francis qui est là, il y a Damien qui est là, il y a aussi Jean-Pierre et Patrick qui ne sont pas là, mais qui font aussi partie de cette équipe, et que nous voulons encourager, et que nous voulons compléter. Nous voulons les encourager par la prière, mais nous voulons aussi les aider à avoir une équipe renforcée. Et donc, l'idée, c'est que nous voudrions promouvoir un renouveau au niveau de l'équipe d'évangélisation à plusieurs niveaux. Alors, quand on parle de renouveau, premièrement, c'est un renouveau dans les méthodes mises en œuvre. Alors, j'insiste là-dessus, c'est que l'évangélisation, en fait, peut se faire au travers de tout un ensemble de méthodes. Il y a des méthodes qui sont le tout de boîte, il y a le porte-à-porte, mais à côté de ça, il y a plein d'autres méthodes d'évangélisation, il y a plein d'autres façons d'évangéliser, et nous sommes en train de nous dire que ce serait intéressant de penser à d'autres formes d'évangélisation. Il y a d'autres choses à faire pour évangéliser, et il y a toute une liste qui existe. On peut faire des centaines de choses. On peut faire des expositions, on peut faire des actions de quartier, on peut vendre des repas, on peut faire des concerts, on peut faire des centaines de choses innovantes pour faire connaître l'évangile de Jésus. Par exemple, cette semaine, à Louvain-la-Neuve, il y a un événement qu'ils ont appelé, c'est une excellente idée, Louvain la foi. Et donc, ils distribuent dans Louvain-la-Neuve des tracts avec Louvain la foi, et ils ont tout un programme avec des petites conférences sur qui est Dieu. Ils ont des activités pour les enfants, ils font des grimaces pour les enfants, ils font des... Vous voyez ? Donc, on doit être créatif, si vous voulez. On doit inventer des nouvelles choses, proposer des nouvelles choses, et donc ça c'est un renouveau au niveau des méthodes. On a besoin d'un renouveau au niveau des personnes impliquées, puisque ils sont quatre, mais c'est quand même pas beaucoup, surtout qu'ils doivent souvent travailler par deux, et que Voilà, mais du coup, l'idée, ce serait de renforcer. On a besoin de personnes qui ont des idées. Vous savez que rien que ça, c'est... Vous savez qu'il y a des gens qui ont le don d'avoir des idées. On a besoin de gens qui ont des idées, qui pourraient proposer des idées, qui pourraient participer, qui pourraient s'investir. On a besoin de gens qui se sentent, peut-être le don de témoigner de Jésus-Christ, de gens qui ont le don de témoigner de leur foi. On a besoin de compétences aussi. Peut-être des gens qui ont la capacité de réaliser des beaux flyers, des gens qui ont la capacité de faire des distributions, des gens qui ont la capacité d'organiser des activités. Hein, par exemple, si on organise le visionnage d'un film dans une dynamique d'évangélisation, ben, il faut bien que des gens préparent le film, que des gens fassent les pop-corn, que des gens... voilà, donc il y a des choses à faire et on a besoin de gens qui s'impliquent là-dedans. Et donc ça, c'est la grande idée, c'est que d'une façon ou d'une autre, toute l'Église est censée être impliquée dans l'évangélisation. Donc le gros souci dans lequel nous ne voulons pas tomber, c'est de nous donner bonne conscience. En nous disant, bah oui, tous les dimanches, on nous dit, prions pour l'équipe d'évangélisation. Bah oui, on prie pour eux. Eux, ils s'occupent, ils font leur bazar dans leur coin. Nous, on continue notre petit train de chemin. C'est pas ça le but. C'est certain qu'il y a des gens qui ont un don particulier pour ça, qui ont un appel particulier pour ça, mais toute l'Église est censée avoir ça à cœur. Non seulement en priant pour eux, mais aussi en agissant. D'accord ? Et donc, dans le programme Espoir 2023, ils ne vont pas à quatre tout faire. Donc, il va falloir que tous, on prenne quelque chose à cœur, qu'on s'investisse d'une façon ou d'une autre. Alors, voici deux citations. L'Église qui n'évangélise pas se fossilise. L'Église qui n'évangélise pas se fossilise. L'évangélisation est un investissement éternel. Lorsqu'on investit dans l'évangélisation, c'est éternel. Une âme qui vient à Christ, c'est un investissement éternel. C'est quelqu'un qui va entrer pour toujours dans l'éternité. Et une citation de Daniel Libret, qui est pasteur à Liège, « L'Église cesse d'être l'Église lorsqu'elle cesse d'évangéliser. » Donc nous tous, nous sommes invités à avoir à cœur l'évangélisation. Alors, Espoir 2023, je l'ai déjà présenté, mais simplement vous dire très rapidement que, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons les idées suivantes. Mais c'est provisoire. Hein, donc ça veut dire que ça pourra évoluer, ce sont des idées qu'on a comme ça, en tête, et il faudra qu'on discute pour faire un programme définitif sur base des nouvelles personnes qui vont s'engager, sur base des idées que les uns et les autres vont donner. Premièrement, il y a 12 jours de préparation et puis 2 jours de proclamation. Donc pendant les 12 jours de préparation, ce qu'on va faire, c'est faire de la préparation, donner des invitations, des flyers, voilà. Et puis il y aura 2 jours où il y aura des activités spécifiques ici à l'Église. Donc, au niveau des 12 premiers jours, nous avons pensé, évidemment, à distribuer des flyers, à des invitations personnelles, c'est-à-dire que chacun de nous, dans notre famille, dans notre environnement, on distribue des invitations, à un kiosque aussi. Donc, on a l'idée de mettre un kiosque, on ne sait pas encore où, comment, mais un kiosque où on pourrait justement, de cette position-là, partager des choses, partager avec des gens, etc., etc. Donc l'idée, évidemment, vous l'avez compris, c'est de se distinguer des témoins de Jéroboam, comme on dit, mais de pouvoir, malgré tout, être visible. Voilà, il y a plein de choses. Anne, je peux le redire encore une fois ? Je peux ou pas ? Bon, ben, tu n'as rien dit, donc je le dis. La maman d'Anne disait... Goïssard, c'est le centre du monde. Et c'est vrai que c'est un espace où il y a énormément de gens qui passent. Vous ne venez pas en semaine, donc vous ne voyez pas, mais il y a beaucoup de gens, et on voudrait aussi être là pour annoncer l'Évangile. Nous avons aussi l'idée de faire une distribution de livres. Pas évidemment des centaines, mais de donner gratuitement quelques livres. Notamment, on a pensé à des livres Vous connaissez le nouveau livre « Dieu, la science, les preuves », 10 préjugés contre le christianisme. Nous avons l'idée aussi de distribuer du matériel scolaire, de faire des actions sociales, etc., etc. Ça, c'est pour la phase de préparation. Ensuite, il y a la phase de proclamation, et ça, ce sont les deux derniers jours, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Donc, toutes les églises vont faire le même schéma, hein. Pas la même chose, mais le même schéma. Et là, nous avons prévu le samedi la projection d'un film, ici, et le dimanche, un culte porte ouverte, donc vraiment un vrai culte porte ouverte, avec un évangéliste invité qui viendra annoncer l'évangile aux gens qui viendront. Donc ça, c'est l'idée qu'on a pour l'instant, mais c'est une idée qui doit être travaillée, réfléchie et surtout mise en œuvre. Voilà. Alors, le texte biblique dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Je voudrais donc faire, au nom de tous les responsables de l'Église, un appel ce matin aux personnes qui auraient à cœur de s'investir dans l'évangélisation ou de s'investir plus particulièrement dans Espoir 2023. Des personnes qui pensent que c'est leur don l'évangélisation, par exemple. Des personnes qui pensent ou qui ont à cœur particulièrement l'évangélisation. Des personnes qui ont des idées. Si vous avez des idées, des personnes qui veulent donner de leur temps, mais également, évidemment, des personnes qui sont prêtes à s'investir, à travailler en équipe et à le faire dans un esprit de prière. S'il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent intéressées par l'un de ces aspects, n'hésitez pas à vous manifester. Comme vous vous en doutez, il y aura des aspects très pratiques. Il y aura des choses à faire. Si on fait une distribution de livres, il faudra des gens qui soient d'accord de venir de 8h à midi le mardi et d'accueillir les gens, dire « ben voilà, voici le livre », par exemple. Et donc, si vous vous sentez touché par cet appel, si vous avez envie de vous investir, manifestez-vous. D'une façon ou d'une autre, vous pouvez en parler à Patrick ou à Jean-Pierre et vous manifester si c'est le cas. Ça va ? Donc, n'hésitez pas, on en a vraiment besoin. Pas seulement pour Espoir 2023, mais pour que plus généralement, nous puissions nous investir davantage dans l'évangélisation. Ça va ? C'est clair ? Bien. Je passe cette fois-ci aux annonces, les vraies annonces. Prions pour tous les malades. Nous en avons beaucoup. D'accord ? Donc, on encourage encore chacun à venir à la réunion de prière où nous prenons des temps pour prier pour tous les malades. Nous citons leur situation, nous prenons des nouvelles, nous expliquons les nouvelles, prions pour les malades. Prions aussi pour l'équipe d'évangélisation, évidemment. Alors, ce mardi, il y a réunion de prière ici à Jumet à 19h. Pendant les mois de juillet et d'août, il y aura un tableau pour la garderie au fond de la salle. Oui, il y a un tableau. Et oui. Tout à fait. Donc c'est à la portée de tous. N'hésitez pas à vous inscrire pour la garderie. L'anniversaire de Genval, les 75 ans, le samedi 16 septembre, il faut s'inscrire sur le site. Alors, il y a des anniversaires. Il y a l'anniversaire le vendredi 14 juillet de Paul. Lundi 10, il y a l'anniversaire de Xavier. Et dimanche 9 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a l'anniversaire de Myriam et l'anniversaire de Talia. Alors, je suis quelqu'un, je n'aime pas respecter les ordres. Je n'aime pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et donc, Myriam n'avait pas envie qu'on attire l'attention sur elle et tout ça. Elle n'a pas envie que tout le monde vienne lui dire « Joyeux anniversaire ». Elle aurait voulu qu'on passe ça sous silence. Mais voilà, Myriam, malheureusement, c'est pas possible. Myriam aujourd'hui qui souhaite un, qui fête, pardon, un bel âge. Mais toi, tu es à l'aise avec cet âge-là parce que tu ne les fais pas. Donc voilà, t'as pas à être mal à l'aise. Donc joyeux anniversaire Myriam, joyeux anniversaire à Talia aussi, qui est, elle est pas là, hein? Oui, c'est ça, il me semble. Ah oui, elle est dans la garderie. Ah non. Ah. Oh là là. D'accord. Eh bien, on pensera aussi à elle. On pensera aussi à elle. Voilà. Nous allons prier pour terminer ce culte. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour toute ton Église qui est là devant toi. Nous avons voulu t'entendre, Seigneur. Tu vois combien nous avons chaud, et pourtant nous sommes là parce que tu le mérites, parce que tu es digne de gloire, et parce que, Seigneur, nous voulons être près de toi. Seigneur, que ce que nous avons entendu puisse s'ancrer dans nos cœurs, tant ta parole que cet appel à l'évangélisation. Seigneur, aide-nous vraiment, non seulement à te plaire, à t'honorer, à vivre d'une façon qui soit à la gloire de ton nom. Et Seigneur, garde-nous tous en toi. Pendant cette semaine, garde-nous dans ta paix, dans ta joie. Protège nos vies, protège nos familles, protège notre Église, Seigneur. Et sois vraiment notre bouclier, notre gardien en tout temps. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.